Bonsoir. Situation sécuritaire au nord Kivu. Des combats ont repris très tôt ce matin dans la région de Kichanga-Mweso, territoire de Masisi, entre les FRDC et les forces d'autodéfense contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. D'après nos sources, 2 personnes ont été blessées par balles lors de ces combats. La population a réfugié à la base de la MONUSCO à Kichanga, lance un cri d'alarme afin qu'un couloir humanitaire soit ouvert pour qu'elle soit évacuée du champ des combats. Entre-temps, les officiers rwandais, membres de l'état-major de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, ont quitté cette semaine le sol congolais sur demande de la RDC. Dans un communiqué publié lundi 30 janvier, le porte-parole des FRDC, le général major Sylvain Ekenge, explique que c'est pour des raisons sécuritaires. À la suite de cette décision, le Rwanda a rappelé tous ses officiers faisant partie de tous les mécanismes régionaux basés en RDC, ajoute le communiqué. Quelle analyse faire de cette situation? Nous en parlons ce soir avec Mwindo Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Il est élu de la province du Nord Kivu. Monsieur le ministre, bonsoir.
Bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu. John Banyene, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs de la Radio Okapi.
Et Christophe Vogel, directeur de recherche du projet Insecure Live Lihood à l'Université de Gand en Belgique. Il est aussi cofondateur de l'Institut de recherche Ebouteli en RDC et aussi ancien membre du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC. Christophe Vogel, bonsoir.
Bonsoir et bonsoir aussi à tous les auditeurs et auditrices.
À Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, vous nous suivez sur la 95.8. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net ou encore sur Canal Plus, Channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radiookapi.net.
Je l'ai dit dans mon introduction, au Nord Kivu, dans le territoire de Masisi, des combats ont repris très tôt ce matin dans la région de Kichanga-Mweso entre les FRDC et les forces d'autodéfense contre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Une nouvelle fois, une personne a été blessée par balle ce jeudi matin. Une fille de 16 ans a été touchée au niveau des côtes. La population réfugiée à la base de la MONUSCO à Kichanga se dit très exposée et réitère son cri d'alarme afin qu'un couloir humanitaire soit ouvert pour qu'elle soit évacuée du champ des combats, mais surtout les personnes déjà blessées qui risquent de perdre la vie par manque des soins appropriés. Le point avec vous, Blaise Shindani.
D'après nos sources dans la région, ces combats se déroulent ce matin en Dondo, 2 km de Kichanga, mais aussi sur l'axe Rouchebeche dans les collines de Bisembe. C'est dans la localité Nyamitaba, en groupement Bachalikayembe, au sud de Kichanga. Selon notre source, l'ennemi viserait de couper la route à Kiroli-Roué pour prendre la direction de Rubaya. D'autres combats se déroulent à Karto, 5 km de Kichanga, en direction de Mweso. Cependant, du côté Bwito, une accalmie relative s'observe ce matin dans la zone de combat, notamment à Kishiche, Moussaï, Lugarama et Bambo. Les bilans seraient lourds côté ennemi, affirme notre source, après des combats à l'arme lourde et légère qui opposent ces rebelles à l'armée et aux forces d'autodéfense depuis plusieurs jours. Les dégâts collatéraux sont nombreux à cause des bombardements dans cette région et la situation reste incertaine.
Vous le savez déjà peut-être, les officiers militaires délégués du Rwanda dans les différentes structures régionales basées à Goma ne participent plus à ces mécanismes de paix et de sécurité dans la région des Grands Lacs. Cette décision a été annoncée le 30 janvier 2023 dans un communiqué de l'état-major des FRDC. Ces mécanismes sont entre autres l'état-major de la Force des États d'Afrique de l'Est, EAC, le mécanisme ad hoc de vérification des frontières et le mécanisme de vérification élargi à la MONUSCO, tous basés à Goma. Le point avec vous, Sifama Gourou.
Dans son communiqué rendu public ce 30 janvier, l'état-major des FARDC indique avoir demandé au commandant de la force régionale de l'EAC de rapatrier dans leur pays les officiers rwandais membres du quartier général de la force basée à Goma. L'armée congolaise évoque des raisons sécuritaires et précise que ces derniers ont déjà quitté les sols congolais et regagné le Rwanda. Le même communiqué, signé par le porte-parole des FARDC, le général-major Ekenge Bomusa Sylvain, ajoute que pour donner suite à cette décision, le Rwanda a rappelé tous les officiers faisant partie de tous les mécanismes régionaux basés en RDC. Pour rappel, le mécanisme conjoint de vérification élargie, MCVE, basé à Goma, a été installé en septembre 2012 et comprend les experts militaires des États membres de la CIRGL avant d'être élargi à la MONUSCO. Son objectif est de surveiller et mener des enquêtes sur des incidents de sécurité dans la région des Grands Lacs. S'en est suivi l'installation du mécanisme ad hoc de vérification Rwanda-RDC mis en place en juillet 2022 dans le cadre du processus de paix sous la médiation du président angolais João Lourenço. Goma, Sifamagoro, Radio Okapi.
Mwindo Nzangi, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, vous êtes élu de la province du Nord Kivu. La situation reste incertaine dans les zones où les affrontements ont lieu entre, d'un côté, les FARDC avec les forces d'autodéfense contre les rebelles du M23 appuyés par le Rwanda. Pourquoi, selon vous, monsieur le ministre, l'armée n'arrive pas à déloger ces rebelles?
Bon, il faut dire que d'abord, la République démocratique du Congo est engagée dans un processus, celui de Nairobi et de Luanda. Et nous sommes surpris, mais sans être sérieusement secoués, puisque nous savons que c'est leur méthode, que le Rwanda est pile option, après le refus du président de la République, c'est-à-dire ce qu'il dit, de rencontrer Paul Kagame, que le Rwanda est pile option de généraliser les attaques contre l'opposition ou contre le gouvernement congolais, notamment la région de Massy. Je voudrais profiter de cette occasion pour parler de la situation des compatriotes qui ont trouvé refuge dans les QG de la MONUSCO à Kitanga. Ce matin, ils sont au 10e blessé par balle, des balles tirées par les M23 contre une installation de la MONUSCO. Nous voudrions donc profiter de ce moment pour demander à la MONUSCO de condamner ces attaques contre les installations et d'ouvrir très rapidement un couloir humanitaire pour que ces compatriotes qui sont là-bas soient évacués vers les endroits les plus sécurisés. On voudrait vraiment demander à la MONUSCO de le faire le plus urgentement possible, puisqu'il est inadmissible que les groupes rebelles tirent sur les installations de la MONUSCO et qu'elles ne réagissent pas. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que les Rwandais continuent à renforcer cette position pour nous mener une guerre de très haute intensité dans cette partie du territoire national, notamment vers Kirolirwe, Nyamitaba aujourd'hui. Mais jusqu'à présent, nos forces continuent à occuper des positions autour de la ville ou de la grande cité de Kichanga qui est affectée depuis tout ce moment-là. Et je voudrais donc dire que cette guerre de haute intensité qui nous est imposée par le Rwanda, malheureusement, pour certaines positions, nous n'arrivons pas à contenir les assauts, mais nos forces armées d'Afrique démocratique du Congo sont à pleine réorganisation, comme vous le savez, pour essayer de voir comment organiser ensemble avec les alliés de la communauté ouest-africaine des opérations généralisées pour récupérer les territoires occupés par l'ennemi.
Alors, en parlant des alliés de l'EAC, nous avons interrogé quelques habitants du Nord Kivu, précisément de la ville de Goma. Cette population a l'impression que depuis l'arrivée de l'EAC dans la zone, la situation est en train de se dégrader. Est-ce que vous avez la même impression, Mwindo Nzangi?
C'est vrai, avec tout ce qui se passe sur le terrain, on a la même impression, bien évidemment, puisque la force avait été constituée pour comme une force de combat contre les groupes armés réfractaires au processus de Nairobi. Il est bien évidemment inquiétant pour tout Congolais qui observe la situation de voir que cette force n'est pas encore entrée en action alors qu'elle avait dit qu'elle pourrait engager ses troupes si le M23 ne respectait pas la ligne rouge qui avait été fixée pour le 15 janvier. Mais ensemble avec la communauté ouest-africaine, la République démocratique du Congo a donc demandé à toutes les forces engagées, notamment dans le cadre de cette force de l'ouest-africaine, de pouvoir se réunir pour trouver des mécanismes d'entrée en action. Et nous avons trouvé qu'au sein de ces forces, l'état-major qui était constitué aussi entre autres des forces armées rwandaises, essayer de constituer une barrière pour empêcher aux forces régionales d'entrer en action contre le groupe armé M23. C'est pour cela que vous avez trouvé que la République démocratique du Congo a demandé de manière expresse aux officiers rwandais qui étaient au quartier général de la force East African de pouvoir se retirer, ce qui a été fait. Parce que des informations à notre possession, des officiers qui pourtant faisaient partie de cet état-major de la force east-africaine, ces officiers-là, qui sont en train de faire des campagnes pour sensibiliser certains officiers congolais d'une certaine ethnie, de se rallier plutôt au M23. Donc, je veux dire qu'à ce stade ici, la République démocratique du Congo continue à croire au processus de Nairobi et de Luanda et demande avec insistance à l'ensemble de la force des East-Africains qui est sur le terrain, ensemble avec les FARDC, de pouvoir mener des opérations contre les M23 pour récupérer les territoires qui sont aujourd'hui occupés par ces groupes rebelles soutenus par les Rwandais.
Monsieur le ministre, à vous suivre, on a l'impression que le Rwanda est tellement fort qu'il est arrivé à influencer toutes les nationalités qui constituent l'état-major de l'EAC pour ne pas attaquer ces rebelles du M23. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre par là?
Je n'ai jamais dit que le Rwanda était fort. Moi, je crois que le Rwanda est même très faible. Mais je voudrais vous le dire qu'aujourd'hui, c'est vrai, la situation qui est sur le terrain semble aller à leur avantage parce que vous le savez, depuis 18 ans, ils nous ont infiltrés, ils nous ont affaiblis. On leur a pratiquement donné les lits pour avoir le contrôle de toute la situation, ce qui fait qu'ils semblent jouer à l'intérieur de nos forces armées pour se faire une force quelconque. Et au niveau de la force est-africaine, vous savez, ce qu'ils ont essayé de faire, c'est de faire comme s'ils étaient membres de la force est-africaine comme le M23. Alors qu'il n'y a pas de M23, c'est eux-mêmes qui sont sur les champs de bataille. Et donc, nous avons demandé qu'ils quittent pour que nous puissions, nous-mêmes, avec les autres forces sud-africaines, planifier des opérations à titre que tu sachant qu'il n'y a pas quelqu'un qui, pratiquement, il est au même moment l'ennemi et il semble être le médiateur.
Et comment vous expliquez le fait qu'un pays qui est considéré comme agresseur et même déstabilisateur de la RDC fasse partie de l'état-major général de l'EAC?
Cela a été fait à la demande de la communauté est-africaine. Comme vous savez, le Rwanda est aussi membre de l'EAC et en tant que force membre, ils avaient le droit de participer à cette force. Mais maintenant, là, nous avons fait une réquisition, nous avons récusé pour qu'ils ne fassent plus partie de cette force parce que nous voyons les actions sur le terrain qui sont en train de mener et même les actions que les officiers qu'ils ont données sont en train de mener sont des actions qui nous mettent bien évidemment mal à l'aise par rapport à la planification des opérations contre le M23 qui n'est rien d'autre que le RDF.
Pensez-vous, monsieur le ministre, que cette décision du gouvernement congolais pourrait avoir un impact sur le terrain?
Bien évidemment, comme vous le savez, nous sommes en planification des opérations de grande envergure. Et donc, nous croyons que nous allons devoir planifier sans avoir à côté des gens qui sont en fait des espions pour nous empêcher de pouvoir mener nos opérations à bon.
John Banyene, président de la société civile du Nord Kivu, comment vous analysez la situation sur le terrain des affrontements? Les FARDC appuyés par les forces d'autodéfense en train de combattre les M23 appuyés par le Rwanda. La population ne sait pas où aller. Comment vous analysez cela?
Oui, madame, je profite d'abord de cette occasion pour saluer Son Excellence Moïse Dzangi, le professeur Christophe Ndenge. Toutefois, je présente mes compassions à mes compatriotes qui sont en train d'aérer pour l'instant même quand nous sommes en pleine émission parce qu'il y a de ces compatriotes qui sont en train de fuir à l'heure où nous parlons, à part les compatriotes qui sont cantonnés dans le cadre de la MONUSCO à Tichanga, la population de Tichanga. Une compétition avec eux, mais d'autres sont aussi en déplacement vers même la cité de Sac, à l'heure où nous parlons, parce que la population de Kabati, de Kingi, de Lupango, de Kaoussa, ils sont en train de se déplacer compte tenu des affrontements qui sont ces derniers temps dans le territoire de la Sicile. Madame, depuis que ces hostilités ont commencé, c'est depuis le mois de juin, le 13 car le 11-23, a conquis le village ou la cité de Bunagana. Ils ont évolué vers le Kuturu, Sark, Kiwanja. Ils ont conquis beaucoup de villages, beaucoup d'entités. Et la population, elle est en train de souffrir. La population est en train de souffrir. Ils sont partis, continuant à conquérir des terrains. Ils sont arrivés dans les Buito où ils ont massacré la population, le dernier massacre de Kishishe, là où ils ont abattu plus de 200 personnes. Ils ont emporté plus de 60 personnes portées disparues à cause de leurs attaques. Et aujourd'hui, la population est vraiment dans un désarroi. On ne sait plus à quel fin se vouer, parce que actuellement, telle que la situation se présente, la population a soutenu l'armée et continue à soutenir son armée, parce que nous n'en avons pas deux, nous avons une armée. Et aujourd'hui, la situation dans laquelle la population du Nord Kivu, et plus précisément du territoire de Rutshuru, et présentement du territoire de Masisi et Nyiragongo, la situation dont nous sommes en train de vivre, vraiment, on dirait que nous ne sommes plus dans le monde. Vous allez voir aujourd'hui, le matin, il y a eu des affrontements qui ont été signalés du côté tel que le journaliste l'a bien souligné aux alentours de Kichanga. Mais ça a dégénéré parce que vers Rouchebeche, le terroriste du M23, ils viennent d'arriver jusqu'à Kilolive, où toute la population vient de se vider. Et à l'heure où je vous parle, dans la cité de Sake, la population vraiment, elle est dans l'incertitude.
Et donc, vous nous dites ici que le M23 continue à prendre des cités, à conquérir des villes et des cités.
Je vous dis, nous sommes en pleine mission, mais je vous dis qu'il y a une population qui se déplace à l'heure qu'il est. Je vous dis que dans la cité de Sake, à cet instant, ce sont des populations qui se déplacent, qui quittent l'axe Kilolirwe, Kabati, Kingi. Tous ces axes-là sont des populations qui se déplacent encore pour aller s'ajouter à des multitudes de populations qui sont en déplacement. Madame, actuellement, nous avons un drame humanitaire. Nous avons plus de 1 million de déplacés maintenant. Parce que si j'essaie de vous parler de tous ces villages qui se sont déjà vidés de leurs habitats, c'est vraiment un drame humanitaire. Nous croyons comme population, la communauté internationale devrait tout faire pour accompagner le gouvernement congolais pour que cette population puisse aussi avoir la paix et la sécurité. Je crois que, tel que le disait son Excellence le ministre Nzang, nous sommes là avec notre gouvernement. Et je crois que le gouvernement, laisse-moi le dire, je crois qu'ils ont été distraits à un moment donné parce que les Rwandais, pour eux, ils se sont préparés pour nous faire du mal des années et des années. Raison pour laquelle, aujourd'hui, nous disons que notre armée est infiltrée, le système de sécurité est infiltré. Oui, parce que ils ont tout préparé. Comment expliquer, madame, aujourd'hui, nous sommes en train de dire, oui, nous sommes agressés par les Rwandais, mais certains officiers rwandais ont été dans le quartier général de l'EAC. Quelque chose que nous, on a mal digéré quand un jour, on s'était réunis avec le commandement de la force régionale, et quand on avait vu des officiers rwandais, dont un était chargé de la communication et l'autre de la logistique, et nous on s'était dit, mais ce n'est pas possible, comment expliquer les gens que nous disons qu'ils nous agressent, ils peuvent encore faire partie de cette force au moment où. Et nous, la population, nous avons dit que le Rwanda ne doit pas faire partie de la force régionale, que le gouvernement lui-même avait accepté, mais voilà, ce n'est que plus tard que la semaine passée qu'on a dit qu'on a rapatrié ces officiers qui étaient juste ici chez nous.
Et ça, on parle. Vous pensez que cette décision du gouvernement pourrait faire changer les choses sur les terrains des affrontements?
Non, je ne peux pas dire que cette situation a changé quelque chose sur le terrain, parce que nous, on considérait leur présence quand ils étaient là, donc ils étaient en train de jouer une double intelligence, parce qu'ils étaient ici chez nous, en train de suivre ce que la force de EAC est en train de planifier ou en train de faire. Au même moment, ils sont en train d'informer
leur gouvernement, parce que bien évidemment c'est leur gouvernement qui nous avait mandaté ici chez nous, et là nous on disait qu'ils étaient en train de jouer un double jeu. Mais comme ils sont partis, nous savons qu'effectivement nous sommes adressés par les Rwandais, et quand ils sont ici chez nous, c'est une façon et de continuer à nous infiltrer, continuer à donner des rapports, des informations à leur pays au moment où nous n'avons pas ces informations dans leur pays. Je crois que le fait de les rapatrier chez eux, bon, c'est quelque chose qu'on peut encourager du côté du gouvernement, mais le gouvernement ne doit pas aussi croiser les bras, parce qu'aujourd'hui, nous, comme population, et le gouvernement, nous considérons comme un parent. Et un parent ne doit pas chaque fois pleurnicher. Je crois qu'il est temps que le gouvernement puisse aussi prendre ses responsabilités. Je crois que nous, comme société civile, à un moment donné, on avait dit même au gouvernement qu'il ne fallait pas même aller demander de l'aide à l'EAC. Nous, on disait qu'il fallait recourir aux bons exemples. Il fallait recourir à la SADC, parce que dans les années 1998, au moins, la SADC nous avait sauvés. Et aujourd'hui, avec l'EAC, bon, nous sommes avec eux. Mais la situation continue à s'empirer sur terrain. Son Excellence vient de dire qu'ils sont en train de planifier des actions de grande envergure avec la force de l'EAC. Mais nous, sur terrain, on ne voit rien, parce que nous connaissons que cette force, d'abord, il n'y a que les Kenyans qui sont sur terrain, et leurs effectifs ne peuvent pas quand même faire face à ces terroristes du M23 qui sont presque partout. Voilà, madame, aujourd'hui, c'est M23 qui sont appuyés par les RDF, qui sont appuyés par les UPDF. Et aujourd'hui, c'est intérêt dans les territoires de Massif, dans les territoires de Rukuru, dans les territoires de Nyiragongo. Ils sont là, ils ont ouvert des fronts aujourd'hui, presque dans quatre axes. Et je crois que si l'EAC va intervenir, ça risque d'être comme le corbillard qui a toujours arrivé quand quelqu'un est déjà mort.
Christophe Vogel, directeur des recherches du projet Insecure Live, Livelihoods, à l'Université de Gand en Belgique. Vous êtes aussi cofondateur de l'Institut des recherches Boutelion RDC, aussi ancien membre du groupe d'experts des Nations Unies sur la RDC. La situation sécuritaire reste préoccupante dans la province du Nord Kivu, avec ces affrontements entre, d'un côté, les FRDC appuyés par les forces d'autodéfense. De l'autre côté, on a les M23 appuyés par le Rwanda.
Oui, effectivement, et si on parle aujourd'hui des affrontements autour de la cité de Kichanga, il ne faut pas oublier que nous sommes maintenant depuis au moins 5-6 jours témoins d'une situation sécuritaire très tendue, où justement l'armée congolaise et des forces d'autodéfense essayent de barrer la route à un mouvement du M23 qui a essayé de percer envers Kichanga, et aussi en essayant de couper la route au niveau de Burungu et de Kiolero, un peu plus au sud. Et dans tout cela, comme ça a déjà été dit, une chose après quand même 20 ans, 30 ans aussi de guerre et d'insécurité qu'on oublie très souvent ou qu'on banalise parfois, c'est justement la question des populations civiles. Et c'est ainsi que, en parlant de Kichanga, je voudrais bien aussi nous rappeler tous que Kichanga est une zone où le déplacement des populations dû à la violence est malheureusement une réalité récurrente. Donc ceux qui connaissent un peu la contrée vont savoir que, par exemple, dans les environs de Kichanga, il y a des camps de déplacés comme Kahe et comme d'autres, qui abritaient déjà des populations déjà déplacées qui, suite à ces violences récentes, sont de nouveau déplacées. Donc on parle pas uniquement des personnes qui sont déplacées de leur village, mais on parle aussi des ceux qui étaient déjà déplacés et qui se font déplacer multiplement. Et cela s'ajoute, je pense, aussi au chagrin collectif des populations de la zone, et parfois quand on parle des mouvements purement militaires ou politiques, diplomatiques, on a tendance à oublier aussi le sort de cette population humaine.
La RDC voulait régler ce problème diplomatiquement, ça ne marche pas. Faut-il continuer avec la diplomatie ou engager une guerre ouverte contre son agresseur pour mettre fin à cette guerre?
Alors personnellement, je pense que chaque guerre de plus ou chaque chaque offensive de violence va avoir un impact humain qui sera forcément négatif parce que si on regarde l'histoire de la région, il y a pas eu beaucoup de guerres qui ont mis fin à la violence. C'est plutôt que les choses se sont historiquement chevauchées. Maintenant, on a une situation diplomatique bien sûr glacée, voire très très hostile, où d'un côté le gouvernement congolais dit qu'il ne veut pas de nouveau une énième fois négocier avec des mouvements rebelles, où le ton aussi entre le Rwanda et la RDC est devenu mutuellement assez violent. Donc et c'est là que la question d'une issue pacifique se pose de plus en plus lorsque les relations sont détériorées, mais aussi la question si après que la force régionale de la communauté d'Afrique, des États de l'Afrique de l'Est semble un peu remplacer une mission onusienne dont le bilan est aussi assez mitigé en ce qui concerne la stabilisation ou la consolidation ou la paix dans l'Est. Si cette force peut véritablement faire une différence, parce qu'il faut le rappeler aussi, sur papier, on parle d'une force régionale, mais en pratique, si on met un peu de côté l'intervention bilatérale du Burundi au sud Kivu, mais aussi l'opération conjointe avec l'Ouganda plus au nord, si on regarde la région autour de Goma, on a uniquement la force kenyane. Donc la question aussi, est-ce qu'il y aura vraiment une force régionale? Et deuxièmement, si soit la force kenyane déjà présente ou la force régionale qui va éventuellement se déployer davantage sera une force agressive, une force d'interposition ou autre chose. Et pour l'instant, on voit beaucoup plus que par souci peut-être de garder un peu un équilibre politique aussi assez fragile au niveau de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, dont la RDC est un membre récent. On peut aussi se poser la question si cette force kenyane, par exemple, va s'engager activement avec comme risque diplomatique régional potentiel de détériorer les relations entre différents États de la région, notamment le Kenya, le Rwanda, l'Ouganda et ainsi de suite.
Et que pensez-vous de la décision du gouvernement congolais de demander aux officiers rwandais qui étaient au sein du commandement de l'EAC de quitter la RDC?
Alors là, je vous avoue que je pense qu'il y a un léger flou qui a un peu dominé le débat les derniers deux jours. Je ne suis pas convaincu si les officiers rwandais en question sont certainement ceux qui ont été déployés dans les mécanismes préexistants. Donc, par exemple, le mécanisme de vérification élargie. Mais pour moi, il y a un léger flou qui domine sur la question. Est-ce que dans l'état-major des forces de la communauté d'Afrique de l'Est, est-ce qu'il y avait vraiment des officiers ou est-ce qu'on parle beaucoup plus des officiers qui étaient dans d'autres mécanismes régionaux? Mais c'est peut-être là aussi que son Excellence, Monsieur le Ministre, peut aussi nous illuminer davantage.
Merci Christophe Vogel. On va prendre à présent ces auditeurs qui sont nombreux à appeler sur notre standard, ces auditeurs qui veulent aussi réagir au thème de ce soir. On prend un auditeur qui nous appelle depuis la ville de Kinshasa.
Japheth Eunga depuis la ville de Kinshasa. La situation de l'Est devient de plus en plus préoccupante. À mon humble avis, nous demandons au gouvernement de pouvoir réévaluer d'abord l'état de siège, changer d'autres officiers militaires, doter les FRDC des équipements militaires nécessaires, ajouter les primes aux militaires qui sont au front. Sinon, cette situation risquerait de perturber le processus électoral de 2023.
Monsieur le ministre.
Oui. Alors, je crois que les compatriotes ont raison. Et ce que tous ceux qui ont parlé, on a parlé le même langage. La question, c'est de savoir comment nous allons faire pour que très rapidement, nous puissions mettre fin à cette situation qui, malheureusement, risque d'avoir un impact négatif sur le déroulement du processus électoral, notamment l'enrôlement qui devait commencer déjà à partir de ce 16. Et je crois qu'il a raison de demander à chaque gouvernement de pouvoir mettre tous les mécanismes en œuvre pour que, bien évidemment, cette question soit traitée le plus rapidement possible. Nous, en tant que gouvernement, nous avons, dans le premier temps,
opté pour deux options, l'option militaire et l'option diplomatique. L'option diplomatique nous a permis d'avoir toutes ces condamnations internationales et d'avoir la France régionale dans nos murs. Il se fait que du côté rwandais, ils ont un plan qui ne tient pas compte effectivement de toutes les pressions internationales qu'ils reçoivent. Et ils essaient de nous mettre devant un fait accompli. Il ne faut pas oublier que l'objectif pour le président Kagame, c'est de mettre la RDC à genoux et donc d'obliger le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Chilombo, à pouvoir négocier avec le M23 pour ainsi déverser dans notre armée encore une fois des cohortes d'officiers rwandais qui vont venir nous soudoyer. Et jusqu'à maintenant, le président de la République a refusé de faire tout dialogue avec le M23 pour se voir imposer des conditions du Rwanda pour continuer à mettre à genoux la République démocratique du Congo et son arme. Le président a opté plutôt pour une solution diplomatique et pour le renforcement des forces d'intervention de la force de police et de défense de la République démocratique du Congo. C'est ce que vous avez vu, toute la mobilisation autour de la formation des unités spécialisées, autour de l'activité des équipements, et nous avons réussi à obtenir la levée de cet embargo contre nous. Et donc, pendant que nous sommes vraiment en pleine préparation, le Rwanda nous prend à court avec, en nous imposant une guerre de très haute intensité. C'est pas que vous observez sur le terrain, mais à chaque gouvernement, on ne se laisse pas faire. Donc, le président, jusqu'à maintenant, n'accepte pas l'option de pouvoir négocier à genoux à chaque République démocratique du Congo. Et donc, la réorganisation de l'armée va continuer et nous allons nous battre. Et c'est aussi l'occasion pour moi de remercier tous les Congolais, tous les combattants qui continuent à soutenir leur armée, et ceux même qui prennent le risque d'être aux côtés des FARDC pour soutenir notre armée, nos efforts, pour barrer la route au Rwanda qui a tendu à plusieurs reprises de balcaniser notre pays. Je voudrais rappeler aux Congolais que ça va être la énième fois que nous recevons des épisodes de cette provocation du régime de Kigali contre notre pays. Mais à chaque fois, c'est eux qui vont perdre. Et même pour cette guerre ici qui nous impose, ils vont les perdre parce que la détermination du peuple congolais est telle que nous n'accepterons jamais encore une fois, d'être colonisés par les Rwandais.
Alors, monsieur le ministre, pouvez-vous éclairer l'opinion sur la présence des officiers rwandais au sein du commandement de l'EAC, comme l'a soulevé tout à l'heure Christophe Vogel? La RDC ou le gouvernement congolais était contre la présence des Rwandais dans cet état-major. Est-ce qu'il s'agissait des troupes rwandaises qui ne viendraient pas sur le territoire congolais, ou bien qu'on ne trouverait pas des officiers rwandais dans ce mécanisme de la sous-région de la communauté des États de l'Afrique de l'Est?
Alors, je voudrais bien préciser que sur cette question, les forces armées de la République démocratique du Congo ont bien communiqué. Ils ont dit que pour des raisons de sécurité, la République démocratique du Congo a enjoint les commandants de la force régionale de la communauté des États d'Afrique de l'Est de rapatrier à leur pays les officiers rwandais membres du quartier général de la force de Mavé à Goma. Tout ce qu'il y avait, bien évidemment, parce que le Rwanda participe à la réunion des chefs d'état-major de la région de l'Afrique de l'Est qui constituait. C'est vrai que la République démocratique du Congo avait refusé que le Rwanda avoir des troupes sur le sol congolais, ce qui a été respecté, mais il n'avait pas été noté quelque part que le Rwanda ne pouvait pas participer au commandement de cette force, et c'est malheureusement ça qui s'est fait, ce qui fait que ces officiers ne faisaient que s'aborder. À plus de ceux qui étaient présents au quartier général, il y a des officiers qui étaient là dans le cadre des autres mécanismes, notamment les mécanismes d'échange de formation, des rassemblements qui avaient été institués depuis 2012. Et bien, tous ces officiers-là ont été demandés de pouvoir déguerpir. Et vous savez, nous avons des informations vérifiées que des officiers qui sont des diplomates, en fait, qui faisaient partie de ces équipes, ont été à la base des influences, des informations que nous recevons, ce qui était, qui faisaient les contacts entre certains officiers d'une certaine communauté du Nord Kivu pour les amener à aller rejoindre les troupes du M23.
John Banyemé, on va prendre aussi pour vous cette autre réaction qui nous vient de Bukavu, au Sud Kivu.
Patrice Ondero Kolimouchi, je vous appelle depuis Bukavu, au Sud Kivu. Nous ne sommes pas étonnés de la reprise des combats sur le terrain, car il est inadmissible qu'on fasse recours à son ennemi lorsqu'on est attaqué par ce même ennemi. Moi, je pense que le fait qu'on ait utilisé l'ennemi dans la mutualisation des forces a permis à ce dernier de voler nos stratégies militaires, ce qui rend de plus en plus difficile le travail de nos militaires sur terrain. D'où il faudrait changer de stratégie pour espérer gagner l'ennemi et vivre en paix.
John Bamenye.
Oui, je crois que le compatriote Patrick de Bukavu, il a tout à fait raison. C'est ce que je disais tantôt en disant que c'est inadmissible de recourir aux gens que vous connaissez qui sont vos ennemis, en croyant que c'est à eux que vous allez encore avoir la solution. Et raison pour laquelle nous, on disait qu'il ne fallait même pas recourir à la force de l'EAC pour nous aider. Il fallait peut-être recourir encore aux forces de la SADC. Et voilà, aujourd'hui, la situation sur le terrain est telle que je le disais, devient de plus en plus compliquée. En tout cas, madame, même dans la ville de Goma actuellement, la population, donc, elle est en train de vivre sous des rumeurs, et actuellement, dans les réseaux sociaux aussi, la population vraiment, elle est vraiment dépassée. Et raison pour laquelle il serait mieux pour le gouvernement de tout faire. Il ne fallait pas qu'ils puissent continuer à croire que les aides proviendront toujours de l'extérieur. Il est temps, c'est le moment que le gouvernement puisse aussi prendre ses responsabilités. Nous devons former une armée républicaine pour qu'on puisse quand même avoir peur de nous Congolais. Aujourd'hui, nous les Congolais, que ce soit même dans la région des Grands Lacs, on nous voit maintenant comme des petits citoyens. Au moment où auparavant, à l'époque, quand on parlait des Zaïrois, on était fiers de cette nationalité parce que c'est tout le monde qui avait peur des Zaïrois. Je crois qu'on n'a rien perdu jusque-là. Le gouvernement doit tout mettre en œuvre pour que nous puissions avoir vraiment une armée républicaine, une armée forte, une armée qui n'est plus, qui sera plus vraiment infiltrée. Je crois que vraiment, nous ne devons pas chaque fois attendre que c'est l'extérieur qui puisse nous aider. Mais néanmoins, je veux encore appeler la communauté, je vais lancer un appel à la communauté internationale. Parce que ce que nous sommes en train de vivre ici à l'Est, c'est inacceptable. Je crois que, madame, il y a des enfants qui viennent de faire maintenant une année sans aller à l'école. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'entités, que ce soit dans Rutshuru, dans les Nyiragongo, maintenant dans les Masisi, les enfants ne vont plus à l'école. Et je crois qu'on ne doit pas accepter d'imposer tout un peuple à ces misères. Je crois que la communauté internationale doit aussi agir le plus tôt en imposant le Rwanda, en sanctionnant le Rwanda de l'appui qu'il est en train, pas même l'appui de cette agression dont il est en train d'imposer la RDC.
Christophe Vogel, on va prendre cette dernière réaction qui nous vient de Goma pour vous.
Moi, c'est Pierre Moussafiri depuis la ville de Goma au Nord Kivu. Je dirais que la partie est de notre pays est en danger. Et jusqu'à présent, nous sommes victimes d'une guerre qui ne dit pas son nom. Jusqu'à présent. Et à la lire où vont les choses avec la prise de cités et villages par l'armée rwandaise sous la couverture du M23, qui cherche à asphyxier la ville de Goma en occupant des voies de ravitaillement de vivres et non-vivres, c'est déjà dangereux pour les pays en général et la ville de Goma en particulier. Le fait d'expulser les officiers rwandais qui étaient dans l'EAC à Goma, le gouvernement congolais n'a rien fait pour moi de spécial, car l'EAC en général joue jusqu'à présent les jeux de l'ennemi. Et à présent, moi je pense qu'il serait très nécessaire de demander à l'EAC en général de quitter la partie est de notre pays et nous laisser la guerre comme nous sommes seuls jusqu'à présent dans cette guerre. Ma question est celle de savoir pourquoi jusqu'aujourd'hui nos avions de chasse ne sont pas utilisés fréquemment pour faire face à l'armée rwandaise ou ougandaise qui continue à nous agresser.
Christophe Vogel, commentaire sur ce point de vue de cet auditeur de Goma.
Oui, alors très vite, je suis très d'accord avec ce questionnement de pourquoi toujours faire recours à des forces extérieures, que ça soit la MONUSCO, que ça soit l'EAC ou la SADC, parce que je pense que dans une situation idéale, c'est le renforcement justement de l'armée nationale qui devrait être priorisé. Et là, je veux nous rappeler aussi un peu tous que quand on parle de de renforcement de l'armée. Déjà, le terme armée infiltrée, je pense, parfois, c'est un terme un peu politique et populiste, parce que quand on parle d'infiltration, on a beaucoup de rumeurs, de spéculations. Il faut pas oublier que cette armée est une armée composée des anciens belligérants des guerres du passé qui ont été unifiées dans la nouvelle armée Fardessé en 2004. Donc ce n'est pas facile de faire fonctionner une armée uniforme qui est à cette historique qui est le résultat des anciennes guerres. Mais c'est d'autant plus important de renforcer la capacité de l'armée à travers, par exemple, aussi l'augmentation de salaire, parce qu'il y a beaucoup d'officiers, beaucoup de militaires très capables dans les FARDC, mais jusque-là, on a un système où les primes sont beaucoup plus élevées par rapport au salaire de base. Et je pense pour renforcer le social, le socio-économique de l'armée, renforcer aussi la morale pour que, justement, les FARDC peuvent faire face aux groupes armés sans faire recours à des forces étrangères. Cela est vraiment primordial.
Ça sera votre conclusion. Christophe Vogel, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour stopper la progression du M23?
Je pense qu'il faut, d'un point de vue pour stopper cela, il faut être très rapide et essayer d'agir, de renforcer les capacités de logistique et de communication, parce que jusque-là, c'est justement les faiblesses à ce niveau qui permettent au M23 de progresser, notamment les derniers jours depuis le retour envers le Massissi. Mais cela sera une tâche difficile et pas évidente, parce que c'est un terrain aussi, un champ de bataille, qui est, pour tous ceux qui connaissent la topographie du Massissi, du Rutshuru, c'est pas évident de faire des opérations dans une géographie et topographie aussi complexe.
Merci Christophe Vogel. Mindoum Zangui, ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, vous êtes élu de la province du Nord Kivu. On va conclure par cette question de Jires Kimba Monabouté, qui vous pose la question de savoir les forces d'autodéfense qui appuient les FARDC en quelle qualité de porter les armes.
L'article 63 de la Constitution demande à tout Congolais, partout où il se retrouve, de pouvoir protéger son pays lorsqu'il est mis en danger. Donc, d'ailleurs, c'est mon appel, je demande à tous les Congolais de pouvoir se tenir prêts à défendre leur pays. La défense du pays n'est pas seulement du gouvernement, la défense du pays, c'est nous tous qui avons la responsabilité de pouvoir le faire. Et donc, ces jeunes qui se donnent, qui se disent, voilà, nous allons accompagner les gouvernements dans le cadre de comités pour les aider à comprendre bien les endroits de débordement à gauche et à droite, ils sont la bienvenue. Et c'est eux, les vrais compatriotes.
C'est le gouvernement qui leur donne les armes.
Le gouvernement ne donne pas des armes aux forces, à qui que ce soit. Le gouvernement combat avec les FARDC, mais il y a des jeunes qui acceptent d'accompagner les gouvernements.
Ils sont armés.
Notamment en donnant des informations de gauche à droite.
Ils sont armés.
Notamment en se donnant la tâche d'être des pisteurs. Je crois que c'est ça le patriotisme, parce que la Constitution leur demande de le faire.
Ils sont aussi armés, monsieur le ministre.
J'ai dit que la Constitution leur demande de défendre leur pays. Dans tous les cas, ce qu'ils sont en train de faire, c'est une bonne chose, puisqu'ils aident le gouvernement ou le militaire du gouvernement à pouvoir pister les endroits où ils doivent passer et à donner des informations.
Merci. Monsieur le ministre John Banyeme, président de la société civile du Nord Kivu, votre mot de la fin.
Oui, madame, je crois que mon mot de la fin est d'interpeller ou d'appeler tous les Congolais sans distinction, même ceux qui sont dans la diaspora, de s'unir contre un seul homme pour barrer la route à l'ennemi et le foutre hors de notre territoire, parce que le pays est en danger. Nous ne devons plus avoir de différends entre nous pendant cette période. Je crois qu'il est temps que tous les Congolais nous puissions nous unir afin que nous puissions vaincre l'ennemi du Congo.
Merci John Banyeme, Dialogue en Congolais. C'est fini pour ce soir. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. Dieudonné Nyangasa a été à la mise en onde. Présentation et coordination, Kelly Mkouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.